autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
Pourquoi ça nous touche?
Charlie Dupiau.
Bonjour, ravi de vous retrouver avec Hugo Violas à la réalisation pour plonger aujourd'hui auprès d'étranges animaux qu'on qualifie tour à tour de chevaux ou de caméléons des mers, voire de poissons aliens. J'ai nommé les hippocampes. Ces maîtres du camouflage insaisissables, ces poissons qui ne ressemblent à aucun autre, atypiques dans leur forme, leur couleur, mais aussi dans leur façon de vivre, de se déplacer et de donner naissance, puisque chez les hippocampes, c'est le mâle qui porte les œufs et donc les futurs bébés. Ces originalités ne sont pas sans danger pour des hippocampes menacés, prisés notamment par la médecine traditionnelle chinoise. Ils vous paraîtront moins étranges quand ils ne vous seront plus étrangers. C'est ce qu'écrit notre invité Patrick Louisy, biologiste et photographe sous-marin, qui publie Les hippocampes, une famille d'excentriques aux éditions Biotope, pour nous faire découvrir ces animaux à la fois mythiques et bien réels, encore méconnus et peu étudiés. Autour de la question pourquoi s'émerveiller des hippocampes. Bienvenue.
Moi, je trouve ça assez fascinant parce que c'est quelque chose qu'on connaît depuis enfant. L'hippocampe, enfin, il y a une sorte de mythe autour de l'hippocampe, l'idée que c'est le mâle donc qui s'occupe des œufs. Puis cette façon de se déplacer à la verticale, là, on a l'impression qu'il se déplace d'une manière complètement différente de tous les autres. Et je ne sais pas, je ne sais pas grand-chose de cet animal, mais il est très intrigant.
Il fait rêver tout comme la licorne, en fait, qui est par contre un animal qui n'existe pas. Mais c'est à peu près dans l'imaginaire des enfants, c'est un peu la même chose.
Les voix de la chercheuse Cécile Michel et de la documentariste Geneviève Anouri, reçue la semaine dernière dans notre émission par Caroline Lachowski. Bonjour Patrick Louisy.
Bonjour.
Cet émerveillement, vous aussi, vous l'avez connu dès l'enfance?
Alors, dès l'enfance, je saurais pas trop dire. Je pense que ça fait partie des figures que tous les gamins, tout petits, remarquent quand on envoie une photo dans un livre, un dessin, etc. Mais en tout cas, oui, je trouve ça fascinant, effectivement, parce que ils ont pas un comportement habituel. Ils font rien comme les autres. Et donc, comme j'ai développé ma vie et mon activité professionnelle dans la science et la découverte de l'environnement et de la vie marine, bah, finalement, je suis tombé dessus. Hein.
Et vous parlez d'excentricité. De quelle excentricité parle-t-on?
Ah bah, c'est excentrique. Je dirais que c'est plutôt la notion que nous, humains, en avons. C'est-à-dire qu'effectivement, ça ne ressemble pas à un poisson comme les autres poissons. Ça ne se reproduit pas de la même manière que les autres animaux. Donc, comme je disais, ça ne fait rien comme les autres. Mais en réalité, si on les regarde de près, si on essaye de comprendre comment ils fonctionnent, comment ils vivent avec ce qu'il y a autour d'eux, on s'aperçoit que finalement, ils ne sont pas si différents que ça.
Et cela fait 15 ans, vous, que vous les étudiez. Comment expliquer qu'ils soient si peu étudiés par les scientifiques en France, notamment?
Alors, il y a une part qui est complètement inexplicable, si ce n'est que ce sont des animaux qui, au moins chez nous, n'ont pas d'intérêt économique particulier, donc qui sont beaucoup moins étudiés que les poissons qu'on pêche ou qu'on mange. Mais il y a aussi une part relativement logique, c'est que les hippocampes et les animaux de leur famille sont assez rares dans la nature. Il y a quelques endroits où ils sont abondants, mais dans la plupart des milieux, des régions où il y a des hippocampes, ils sont très peu nombreux et les observer, les étudier est difficile.
Alors ce qui est aussi attirant, c'est leur apparence. On dit des hippocampes qu'ils ressemblent aux chevaux, aux kangourous, aux singes, bref à beaucoup d'autres animaux bien différents.
Oui, alors ça, c'est un petit côté énervant parce que, effectivement, on a tendance à coller sur l'hippocampe des images d'animaux qui nous paraissent plus familiers ou des aspects extraordinaires qu'on connaît mieux chez d'autres animaux. Une poche marsupiale chez le kangourou, des yeux proéminents et orientables chez le caméléon. Mais en réalité, les hippocampes, ils ont une tête d'hippocampe, des yeux d'hippocampe, une queue d'hippocampe.
Et il existe plus de 40 espèces différentes dans le monde, c'est bien ça? Et on en découvre encore aujourd'hui des nouvelles?
Ben oui, dans la mesure où ce sont des animaux qui sont rarement très abondants, les risques qu'on passe à côté sont importants, d'autant plus qu'il y a des toutes petites espèces. Et c'est beaucoup dans les petites espèces, dans les régions tropicales, dont certaines ont été très peu étudiées, qu'on découvre des nouvelles choses chaque année.
Certains hippocampes font un centimètre ?
Oui, alors je crois que le plus grand spécimen de la plus petite espèce doit atteindre 12 mm en tirant bien sur le bout de la queue. Voilà.
Et certains peuvent aller jusqu'à 30 cm.
C'est ça. Donc il y a une chose à se mettre en tête, c'est que c'est pas comme un cheval sur lequel on pourrait monter, on peut pas chevaucher un hippocampe, c'est pas la bonne échelle. Mais en revanche, il y a quand même des différences de taille importantes selon les espèces, et quand on voit un hippocampe d'une trentaine de centimètres de haut, c'est quand même un animal assez impressionnant.
Alors je me disais qu'on pourrait peut-être décrire un de ces hippocampes, l'hippocampe moucheté. Je vous propose de décrire avec moi, qu'on observe notamment en Méditerranée. Alors à quoi il ressemble ?
Alors, pour décrire un hippocampe, comment faire ça ? Alors d'abord, je dirais c'est une bouche, une toute petite bouche au bout d'un long museau très fin qui lui permet d'aspirer ses proies. Ça...
Et c'est comme ça qu'il se nourrit.
Voilà, tout à fait. Et cette tête, elle est à peu près à angle droit du corps. Un corps qui a l'air d'être cuirassé. Parce que sous la peau, il y a des petites plaques osseuses cutanées qui se rejoignent en faisant des épines. Donc il y a une espèce de maillage osseux sous la peau qui les protège, notamment des morsures.
Qui donne des petits reliefs en apparence.
Voilà, donc ça a un côté un petit peu quadrillé, annelé, et une certaine rigidité d'aspect. Et puis, si on continue vers l'arrière du corps, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de nageoire caudale. Il y a une espèce de longue queue qui se tortille un petit peu comme la queue d'un serpent, pour reprendre les images qui viennent souvent à l'esprit, et qui lui permet de s'accrocher à un objet s'il le souhaite.
Et une nageoire dorsale dans le dos.
Alors, les hippocampes ont beaucoup moins de nageoires que les autres poissons. Qu'est-ce qu'il leur reste ? Il leur reste une nageoire dorsale, donc c'est la nageoire qui est sur le dos et qui ondule. C'est cette ondulation de la nageoire qui leur permet de nager. Il y a deux autres nageoires qu'on appelle les nageoires pectorales. C'est celles qui sont vers l'avant du corps des poissons et qui se trouvent finalement comme un petit peu deux demi-collerettes derrière la tête et qui lui permettent de pivoter, de s'orienter, de monter, de descendre. Puis il y a une toute petite nageoire qui est la nageoire anale, qui se trouve donc juste devant l'anus, sous le ventre. Et celle-là, bon, c'est pas à quoi ça sert.
Encore un mystère à percer. Alors je vous propose d'écouter un autre plongeur en apnée, lui, Guillaume Néry, qui préfère plonger en osmose plutôt avec les cachalots ou les dauphins. Mais il n'est pas rare qu'il croise, lui aussi, des hippocampes.
Pour observer les hippocampes, il faut avoir les yeux grands ouverts. Et il faut être vraiment le regard tourné vers l'extérieur. Alors l'apnéiste est souvent centré sur ses sensations, sur son propre corps. Et quand on vraiment ouvre le regard et que l'on cherche autour de soi, quand on voit un hippocampe, c'est comme une espèce de rêve de gosse, comme un dessin animé qui prend vie. C'est une espèce de création de la nature qui est surréaliste. Non, l'hippocampe, c'est une sacrée créature.
Sacrée créature, Patrick Louisy, qui est difficile à observer. Souvent, l'animal, en fait, vous tourne le dos.
Oui, alors c'est vrai que la grande difficulté pour voir un hippocampe, c'est qu'il ne faut pas chercher à voir un hippocampe. C'est-à-dire ne pas chercher à voir l'image qu'on a de cet animal, avec ce qu'on décrivait tout à l'heure, la tête à angle droit, cette encolure un peu chevaline. Ce qu'il faut, quand nous on cherche des hippocampes pour les recenser, pour les étudier, en fait, on cherche un accident, une incohérence dans l'environnement. Un petit quelque chose qui pourrait bien être autre chose qu'une algue ou un caillou. Dans 80% des cas, c'est quand même une algue ou un caillou, mais des fois, ce petit quelque chose qui n'est pas comme le reste, on s'aperçoit que c'est effectivement non pas un hippocampe, mais un bout d'hippocampe. Parce que, comme vous le disiez, les hippocampes, lorsqu'on s'approche, tout doucement, sans se faire repérer, il tourne le dos et on se retrouve avec une forme assez improbable dont une partie est souvent cachée. On ne voit pas la queue en entier, par exemple. Donc on voit des bouts d'hippocampe, on voit un bout du dessus de la tête ou un bout du dos et il faut se débrouiller avec ça pour arriver à les repérer.
Et souvent, il reste sur les fonds, en fait, marin. Vous écrivez même qu'il rampe, presque.
Alors, c'est vrai que les hippocampes, on se dit, avec la queue qu'ils ont, c'est fait pour s'accrocher. Et il y a certaines espèces qui passent leur vie accrochées
à
des algues, à des gorgones, à des animaux qui en forme d'éventail, des choses comme ça. Mais en réalité, la plupart du temps, s'il n'y a pas de courant, s'il n'y a pas de raison particulière de s'accrocher, ils sont juste vautrés sur le fond, ça fait un gros splouch sur le fond. Là. Ça donne vraiment une impression de paresse indolente qui est assez étonnante dans certains cas.
Alors une autre caractéristique remarquable pour les hippocampes, ce sont leurs yeux qui sont très mobiles, qui peuvent pivoter pour bien regarder leur proie en face. Et ce sont aussi les rares poissons dotés de vision binoculaire.
Alors voilà, ça c'est vrai que c'est important c'est un équipement sensoriel de grands prédateurs. C'est-à-dire que comme leurs deux yeux sont capables de s'orienter vers l'avant, ça leur permet de voir avec les deux yeux en même temps une proie potentielle. Et à partir de ça, ils peuvent estimer la distance et donc le mouvement de capture est beaucoup plus précis.
Un mouvement précis, alors pour quelle proie? De quoi se nourrissent les hippocampes?
Ah, ça mange des tout petits trucs, puisque ça a une petite bouche et leur système pour s'alimenter, c'est d'aspirer avec une paille. Donc c'est vraiment fait pour attraper des petites proies qui sont la plupart du temps des micro-crustacés. Donc, pour ceux qui en ont entendu parler, des copépodes, qui sont peut-être les types de crustacés les plus abondants dans la mer, qui dépassent rarement un millimètre de long. Puis il y a aussi des mysidacées, qui sont des sortes de petites crevettes nageuses qui se promènent en essaim près du fond et qu'ils adorent.
Autre talent des hippocampes, c'est celui de se camoufler, de se cacher et de devenir invisible. C'est le cas de cette espèce, écoutez.
La voici, c'est l'hippocampe pygmée des Gorgones, l'un des plus petits de sa famille. Il n'est pas plus gros que la gomme d'un crayon à papier. Il est parfaitement camouflé parmi les Gorgones, si bien qu'il est presque invisible. D'ailleurs, il était inconnu de la science jusqu'en 1969, quand il a été découvert par hasard.
Personne ne connaissait son existence jusqu'à ce que des scientifiques prélèvent des coraux et voient quelque chose bouger à l'intérieur. En regardant de plus près, ils ont découvert un minuscule hippocampe identique aux branches du corail.
À la naissance, ce petit hippocampe est lisse et de couleur brune. En grandissant, il adopte la couleur et la texture du corail qu'il occupe, indépendamment de l'apparence de ses parents.
Extrait d'un documentaire de la chaîne National Geographic Wild. Alors Patrick Louisy, quelles sont les stratégies mises en place par les hippocampes comme celui-ci pour se cacher?
Alors là, l'exemple dont on parlait ici, c'est vraiment un des exemples les plus extrêmes d'adaptation à un environnement particulier et de mimétisme en l'occurrence, puisque que le chercheur appelait coral, qui est en fait une gorgone en français, c'est ces animaux fixés qui font des sortes d'éventails colorés. Et sur les différentes tiges de ces éventails, il y a des petits polypes qui sont comme des micro-fleurs. Donc l'hippocampe, il a effectivement la même couleur que les branches de la gorgone, et il a des pustules alors la couleur est rosée, et il y a des pustules rouges.
Ça lui donne un aspect assez particulier.
Qui font que c'est un animal tout à fait étonnant, qui ressemble à rien, mais qui ressemble vraiment très fortement à l'aspect de la gorgone elle-même, avec ses polypes rétractés.
Il y a des stratégies moins extrêmes pour se camoufler que celle-ci?
Alors, bien entendu, il y a moins extrême que ça. La première chose, c'est qu'il y en a qui se cachent. Donc il y a des espèces qui se planquent dans les algues et qui sont très difficiles à repérer. Et puis, ce qu'on a un petit peu déjà dit, c'est que il s'arrange pour être dans une position qui fait qu'on ne perçoit pas bien leur forme. Et puis il y a l'adaptation de la couleur qui peut être aussi importante, soit pour prendre la même couleur que l'environnement, soit pour prendre une couleur éventuellement très visible, jaune vif, orange, des choses comme ça, mais qui évoquent par exemple des éponges qui vivent normalement dans ce milieu.
Et où est-ce qu'on peut les observer alors, ces hippocampes ? Dans quel type de milieu naturel ?
Alors, les hippocampes sont des espèces côtières en général, qui vivent dans les eaux assez peu profondes pour la plupart, même s'il y en a quelques-unes qui descendent autour d'une centaine de mètres. Mais la plupart du temps, ce sont des espèces côtières qu'on trouve plutôt dans des secteurs abrités. Donc sur nos côtes, ça va être soit des fonds un petit peu sableux, des zones où il y a des herbiers, des prairies sous-marines, ou des zones rocheuses, pas trop près de la surface pour que ce soit pas trop agité. Et puis on trouve également des hippocampes dans les mers tropicales, c'est d'ailleurs là qu'il y a le plus grand nombre d'espèces, où ils vivent dans les récifs de corail, là aussi dans des prairies sous-marines, sur des fonds de sable, et éventuellement à proximité des mangroves, là, qui sont ces forêts avec les pieds dans la mer.
Autour de la question pourquoi s'émerveiller des hippocampes, qu'a-t-on à apprendre de leur observation, eux qui, paraît-il, ne font rien comme tout le monde ? On se retrouve dans un instant, restez avec nous, on n'a pas fini de percer tout ce mystère.
Festa Santo Santiago, festa fina som. Festa Santo Santiago, festa tradição. Festa Santo Santiago, festa fina som. Reza missa, festival. Vijão charengo body na chada. Jarengo body na chada. Festa Santo Santiago.
Santiago.
Tá junta po. Festa Santo Santiago. Tá de chá saudade. Festa Santo Santiago.
Santiago.
Tá junta povo. Festa Santo Santiago. Tá de chá saudade. Grogo na chada. Regado, funana, cucha, beta, fincado. Festa Santo Santiago. Festa Santo Santiago. Tá junta povo. Festa Santo Santiago. Tá de chá saudade.
La douce voix de Mayra Andrade sur RFI avec Festa Santo Santiago qui nous emmène au Cap-Vert. Cap-Vert, vous avez pu observer une espèce d'hippocampe, Patrick Louisi, l'Hippocampus algéricus.
Oui, tout à fait. Donc ça, c'est vrai que c'est la première fois que je voyais cette espèce-là qui donc se retrouve sur une bonne partie de la côte occidentale de l'Afrique. Et c'était assez émouvant pour moi, parce que c'est quand même découvrir une nouveauté, quelque chose qu'on a jamais vu. Et puis surtout, comme on faisait ça en même temps qu'un recensement de poissons, qu'on replongeait régulièrement dans le même secteur, on a fini par voir qu'il y avait vraiment une population de, je crois, 6 ou 7 hippocampes de cette espèce. Et parmi ces hippocampes qui étaient tout rosâtres, marronasses, enfin avec des couleurs assez ternes, il y en avait quelques-uns qui étaient jaunes d'or.
Au sein de la même espèce.
Au sein de la même espèce.
Une vraie variété même pour une seule espèce.
C'est comme les couleurs de cheveux chez nous, quoi.
Chacun ses caractéristiques. Alors pourquoi on l'appelle l'Hippocampus algéricus ?
Alors ce nom algéricus, ça vient du fait que lorsqu'il a été découvert et décrit par les scientifiques, ça date d'un autre siècle, très largement. Le spécimen qui a servi à la description venait d'Algérie. Ou du moins, c'est ce qui avait été répertorié. Depuis, on n'a jamais trouvé un exemplaire de cette espèce en Méditerranée. Et donc,
on le voit seulement sur les côtes ouest africaines.
On le connaît sur les côtes ouest africaines et en Méditerranée. On se demande si c'était une erreur ou quelque part, il y a peut-être une chance qu'on en retrouve un jour sur les côtes d'Algérie.
Encore un mystère, décidément. Alors, une question nous vient pour vous d'un confrère de la presse scientifique, Mathieu Novak, journaliste à Sciences et Avenir et habitué de notre émission.
Est-ce que l'hippocampe se couche pour dormir ?
Alors, Patrick Louisy.
Ah, bonne question. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, l'hippocampe se couche, se vautre, rampe, se traîne sur le fond éventuellement, mais ça n'a pas a priori de rapport avec le fait de dormir ou pas. Ça ne vous aura pas échappé que les poissons en général et les hippocampes en particulier n'ont pas de paupières, donc ils gardent leurs yeux grands ouverts même lorsqu'ils se reposent. Et en plus, il n'est pas certain qu'ils dorment la nuit non plus, parce que notamment quand il y a la lune, qu'il y a un petit peu de luminosité, on s'aperçoit que les hippocampes peuvent chasser pendant la nuit. Parce que c'est une heure où les petits crustacés, les fameux copépodes dont on parlait tout à l'heure, ont tendance à sortir du fond et à nager à proximité du fond. Donc les hippocampes profitent aussi de cette activité nocturne de leur proie.
En 50 millions d'années d'évolution, les hippocampes ont perdu leurs écailles, ont perdu certaines nageoires, comme les autres poissons, mais ils ont gagné une poche incubatrice pour les mâles, donc qui permet aux mâles d'incuber les œufs déposés par les femelles. C'est aussi une des particularités des hippocampes, cette gestation par le mâle.
Oui, ça c'est quand même quelque chose de vraiment particulier, faut bien dire. Alors, cette poche, la femelle y dépose les œufs. Parce qu'il faut bien se dire que ce n'est pas parce que les mâles assurent l'incubation des œufs qu'ils font tout à l'envers dans cette espèce. C'est bien les femelles qui produisent les œufs, ça c'est quand même normal.
Les ovules en fait.
Et les ovules qui sont... Alors on peut peut-être essayer de mettre en scène un petit peu la façon dont ça se passe.
Allons-y.
Donc on a monsieur et madame qui s'aiment beaucoup. Et il y a une parade qui est un petit peu à l'initiative des deux. On va dire que ça peut être la femelle qui va d'abord venir chercher le mâle, et ensuite le mâle qui se met à parader. Parmi les mouvements spécifiques de la parade sexuelle, il ouvre sa poche béante, histoire de montrer comme c'est un bon réceptacle pour les ovules de la femelle qui est avec lui. Donc ça fait partie de la parade, ça montre à quel point c'est un bon partenaire. Et donc, il y a un certain nombre de petites danses. Et puis, il arrive un moment où les deux partenaires montent ensemble dans la colonne d'eau. C'est-à-dire qu'ils vont s'éloigner à 50 cm ou 1 mètre du fond. Et au sommet de leur ascension, ils se tournent face à face. La femelle est juste un petit peu au-dessus du mâle et elle positionne son orifice génital au-dessus de la poche ouverte du mâle. Et elle émet ses œufs, splouch, tout d'un coup. En fait, elle a des muscles qui peuvent comprimer brutalement les ovaires. Et donc, la masse d'œufs est émise d'un
près
seul
de
coup.
Près de 200 ovules ?
Alors, ça dépend bien sûr beaucoup des espèces. Chez l'hippocampe moucheté, dont on parlait tout à l'heure, par exemple, c'est entre 100 et 600, je crois, le maximum qu'on ait pu voir. Donc, ces œufs sont injectés dans la poche du mâle, qui émet du sperme au passage, puisque l'orifice urogénital est juste à l'entrée de la poche. Et puis, ils se séparent, sans autre forme de procès. La femelle va vaquer à ses occupations diverses, tandis que le mâle, lui, on le voit qui se tortille, qui se contracte, qui bouge, jusqu'à ce que finalement les œufs soient bien répartis dans la poche. Je pense que ça aide aussi à avoir une meilleure fécondation parce que ça fait circuler un peu les fluides dans la poche. Puis une fois que tout ça est bien installé, il va les garder pendant plusieurs semaines. Donc les œufs se développent dans la poche, les embryons à l'intérieur des œufs se développent. L'éclosion des œufs a lieu dans la poche. Et pendant quelques jours encore, les bébés hippocampes restent dans la poche, bien à l'abri, oxygénés par le sang qui circule dans les tissus de papa, et même un petit peu alimentés par quelques substances nutritives. Donc ces bébés, ils éclosent une semaine avant la mise bas, avant que le mâle les libère, et ils libèrent des bébés qui ressemblent à des petits hippocampes parfaits, tout à fait capables de nager,
de chasser.
On a même, il y a des scientifiques qui sont amusés à faire des mesures de puissance d'aspiration, des choses comme ça, et qui sont aperçus que les bébés hippocampes avaient une puissance d'aspiration qui est 2 à 3 fois supérieure à celle des adultes. Donc c'est vraiment des chasseurs de grande classe, quoi.
Et alors cette gestation par le mâle peut durer 3 à 4 semaines, ça dépend de la température de l'eau.
Oui, alors ça c'est un phénomène très général, notamment dans la mer. C'est que les animaux qui vivent à la température de leur environnement, qu'on dit à sang froid mais qui en réalité on le sent à la même température que l'environnement, leur métabolisme est plus ou moins rapide en fonction de la chaleur. S'il fait froid, leur métabolisme est très réduit. S'il fait chaud, tout se passe beaucoup plus vite, y compris le développement des œufs.
Alors ce type de gestation par le mâle, on le retrouve aussi au sein d'une espèce d'amphibien que vous connaissez peut-être, Patrick Louisi, l'alite accoucheur, aussi appelé le crapaud accoucheur. Je vous propose d'écouter l'éclairage de Françoise Serre-Collet. Elle est herpétologue, donc elle étudie les reptiles et les amphibiens, tous les animaux qui rampent. Elle est au micro de Catherine de Copé, notre reporter, et elle décrit donc ce crapaud accoucheur. Écoutez.
Brun, tacheté un petit peu de vert et de marron. Il mesure environ 5 à 5,5 cm. Et ce qui est vraiment étonnant, ce sont ses yeux. Il a une pupille verticale.
Donc on le trouve principalement en France et il est facile à repérer.
Alors, il est surtout facile à entendre, parce qu'on l'entend plus qu'on ne le voit, puisque ce sont des animaux qui ont tendance à se cacher, notamment dans les murs de pierre, par exemple.
Pourquoi on l'appelle alite accoucheur, ce crapaud, Françoise Serre-Collet ?
Ah, parce qu'il a une reproduction, mais des plus étonnantes. Déjà, c'est une espèce qui se reproduit sur Terre. C'est-à-dire que toute la reproduction, jusqu'à l'éclosion, va avoir lieu sur le milieu terrestre. Là, les mâles vont commencer à chanter, donc vous avez une petite note flûtée qui sort de leur gorge. Et chose étonnante, d'ailleurs, chez cette espèce-là, les femelles aussi, elles chantent. Et là, dès qu'il y a une femelle dans le coin, bien évidemment, le mâle va l'accoster, va lui monter dessus, va l'agripper dans une posture que l'on appelle l'amplexus. Après, il va ramener donc ses pattes postérieures au niveau de son cloaque, à elle, et va former une espèce de coupe où la femelle va éjecter toute cette ponte. Et c'est à ce moment-là que le mâle va donc éjecter son sperme afin que les spermatozoïdes puissent aller féconder donc les ovocytes éjectés par la femelle. Une fois que c'est fait, le mâle va plonger ses pattes donc à l'intérieur de cette ponte et va se tricoter finalement la ponte au niveau de ses chevilles. Une fois qu'il s'est bien installé tout ça sur les pattes postérieures, il abandonne la femelle, il s'en va et il va s'occuper notamment de sa ponte pendant tout le temps que va durer donc l'incubation de ses œufs donc au niveau de ses chevilles.
Françoise Serre-Collet, est-ce que l'alite obstétricans est le seul à garder les œufs de la femelle sur ses pattes pendant cinquantaine de jours ?
L'alite accoucheur, notamment en France, est la seule espèce à garder donc les œufs comme ça autour de ses pattes.
La l'alite accoucheur ou le crapaud accoucheur dont nous avons pu entendre le son grâce à la sonothèque du Muséum d'Histoire Naturelle que l'on remercie. Ce crapaud partage donc une caractéristique en commun avec l'hippocampe, Patrick Louzy.
Oui, ça fait partie des très rares espèces où le mâle assure l'incubation des œufs. Cela dit, c'est un petit peu moins poussé que chez les hippocampes. Mais les hippocampes, autant ils ont l'air d'être vraiment exceptionnels quand on les regarde se reproduire, autant lorsqu'on y réfléchit un petit peu et qu'on met ça en perspective, finalement ils ont juste poussé un peu plus loin que d'autres les processus de protection et d'incubation des œufs. Dans la mer, dans les rivières aussi d'ailleurs, il y a un certain nombre d'espèces qui pondent des œufs sur le fond. Et les œufs sont ensuite protégés par le mâle jusqu'à l'éclosion. Chez certains syngnathes des poissons aiguilles qui appartiennent à la même famille que les hippocampes, on connaît des espèces qui ont juste des œufs collés sous le ventre. Donc le mâle porte les œufs collés sous le ventre. Donc finalement, c'est un petit perfectionnement par rapport au système de coller les œufs sur un caillou. On les emmène avec soi, c'est un peu plus pratique à gérer. Et puis, dans la famille, il y a tout un tas d'intermédiaires avec développement d'une poche qui va d'abord envelopper les œufs. Et puis, le cas extrême chez l'hippocampe, c'est une poche complètement close qui isole les œufs de l'environnement et qui leur offre des conditions d'incubation très, très particulières et favorables.
Et ça, c'est unique en fait dans le monde marin.
Et ça, ce niveau d'implication dans l'incubation par le mâle est quasi unique. Il y a d'autres poissons qui font quelque chose d'un petit peu différent, c'est rigolo aussi. Ce sont les apogons ou les poissons cardinaux chez qui le mâle porte les œufs dans la bouche. Donc il a la gueule pleine d'œufs pendant une semaine ou deux jusqu'à l'éclosion. Et ça le fait maigrir pas mal en période de reproduction.
Quelle est la durée de vie moyenne des hippocampes ?
Alors les hippocampes, alors évidemment ça dépend des espèces. Une espèce très grande va plutôt vivre plus longtemps qu'une espèce toute petite. Chez ceux de nos côtes, on peut estimer que c'est de l'ordre de 4 à 5 ans dans la nature. Je crois que l'hippocampe moucheté en captivité, on connaît des individus qui ont pu vivre 7 ou 8 ans.
Vous l'écrivez, Patrick Louzy, les hippocampes sont d'excellents candidats pour le titre de poisson le plus invraisemblable de notre planète. Et on commence à vous croire. On va continuer de tracer les paradoxes et les bizarreries de ces chevaux des mers. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on les appelle en anglais. Seahorse, c'est tout de suite sur RFI et c'est signé Devendra Banhart.
I want to be a little sea horse.
de la question « Pourquoi s'émerveiller des hippocampes ?» Que savons-nous de ces animaux particuliers? Quelle est leur place, leur rôle dans la biodiversité marine? Et en quoi sont-ils menacés? Pour en parler, nous sommes en compagnie d'un biologiste passionné qui les suit et les photographie depuis plus de 15 ans, Patrick Louisy. Alors je vous propose tout de suite un petit pas de côté pour se rapprocher un peu de nous, car l'hippocampe, c'est aussi une région de notre cerveau, bien connue quand on évoque la mémoire. La neurobiologiste Valérie Deuyer nous en parle. Elle est directrice de recherche au CNRS au sein de l'Institut des neurosciences Paris-Saclay. Catherine Decopé l'a rencontrée.
Alors l'hippocampe cérébral, c'est en fait une structure qui est interne dans le cerveau, qui est bilatérale, c'est-à-dire qu'on l'a de l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, et elle est en fait sous le cortex.
C'est pas un seul morceau?
En fait, ils sont reliés par des commissures, des fibres entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Mais en fait, c'est la structure hippocampique. Il y a un hippocampe gauche et un hippocampe droit.
Pourquoi on lui a donné ce nom d'hippocampe? Est-ce que vous le savez, Valérie Deuyer?
En fait, c'est parce qu'elle a, c'est l'analogie avec sa forme. C'est-à-dire que la forme, quand on la regarde en trois dimensions, elle a en fait la forme d'un hippocampe ou d'une banane. C'est un peu la même chose. Et de façon générale, chez les mammifères, elle a à peu près toujours cette forme-là. Donc c'est comme ça que ça a été appelé. On a relié la fonction mnésique de mémoire à cette structure cérébrale.
Plus spécifiquement, qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui de l'hippocampe?
Alors, il y a plusieurs fonctions qu'on connaît. C'est effectivement, il y a la fonction mnésique avec une partie, disons, au niveau associatif, c'est-à-dire déclaratif, être capable de dire que tel élément va être associé à tel autre élément. Donc, c'est une composante fondamentale, en fait, de l'apprentissage. C'est pour ça qu'elle est cruciale dans tout ce qui est mnésique et formation de la mémoire. Après, elle a aussi un rôle très important dans tout ce qui est spatial, qui est aussi une composante importante de la mémoire, bien évidemment, de savoir où vous êtes et où vous avez été. Et donc, il y a les fameuses cellules de lieu qui ont été enregistrées, c'est d'ailleurs les prix Nobel, puisqu'ils étaient trois, qui donc démontraient aussi des cellules hippocampiques qui vont en fait encoder le lieu où vous êtes. Et plus récemment, on a aussi ce qui va former en fait le quand et où, c'est-à-dire ce qui va vous permettre de vous repérer en « j'ai été à tel endroit, à tel moment ». Donc, qui forme en fait ce qu'on appelle la mémoire épisodique.
Patrick Louisy, j'imagine que ce n'est pas la première fois qu'on vous met face à ce parallèle, l'hippocampe qui est aussi donc une région de notre cerveau.
Oui, alors il faut quand même admettre que ça vient secondairement. Il a droit à cette dénomination parce qu'il ressemble à l'hippocampe marin. Ce que je trouve intéressant, finalement, ça peut être une réponse au mystère de l'hippocampe. Pourquoi on se passionne pour ces animaux-là? C'est peut-être tout simplement parce qu'on a tous un hippocampe dans la tête.
Belle réaction. Alors, les hippocampes sont menacés par la pêche, notamment comme cela a été le cas dans le bassin d'Arcachon, au sud-ouest de la France. Je vous propose d'écouter un extrait d'un reportage sur le sujet diffusé par la chaîne de télévision France 3.
Qu'est-ce qui vous touche, Fabien, vous, avec ce poisson?
En fait, ça touche tout le monde, parce que c'est un poisson qui n'a pas du tout le comportement habituel des poissons. D'abord, il ne s'enfuit pas quand on le voit. Il vous regarde avec des gros yeux ronds qui sont complètement mobiles séparément, c'est-à-dire qu'il peut regarder une personne avec un œil et une autre... Et c'est ce que je disais, il ne fuit pas. Et c'est d'ailleurs ce qui lui a nui pendant une longue période, parce qu'en fait, il était tellement facile à attraper que les gens l'attrapaient avec une épuisette, le faisaient sécher, le vernissaient et le vendaient comme souvenir. Et alors, il y avait une autre technique qui consistait à le faire sécher, à le concasser pour faire de la poudre aphrodisiaque.
Non.
Si, c'est vrai.
De la poudre aphrodisiaque, Patrick Louisy.
Ah oui, ça c'est... C'est vrai que les hippocampes, depuis l'Antiquité, même depuis les Antiquités dans différentes régions du monde, sont considérés comme à la fois magiques et en même temps utiles à titre médical. Les deux allaient beaucoup ensemble.
C'est leur aspect peut-être qui...
Il est doté de super pouvoirs aux yeux de
Il est certains. Assez probable que leur aspect très particulier compte pour beaucoup dans la perception de ce côté magique ou extraordinaire de ces animaux. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que les hippocampes, on va dire, pâtissent encore de cette vision traditionnelle, notamment, y compris dans nos sociétés, où les pêcheurs du bassin méditerranéen, par exemple, considèrent que les hippocampes sont des porte-bonheur et qu'ils ont tendance, quand ils trouvent un hippocampe, à le faire sécher pour l'offrir à quelqu'un en tant que porte-bonheur. Ça évolue, heureusement, mais ça montre quand même qu'il y a quelque chose de très fort d'implanté dans notre inconscient. Et puis, c'est aussi utilisé de façon vraiment opérationnelle en médecine, dans la médecine traditionnelle chinoise ou d'autres médecines orientales. Où, alors, bon, le côté aphrodisiaque, c'est un petit peu anecdotique, mais comme toujours en médecine chinoise, ça peut jouer sur plein de choses, plein d'affections dites très diverses, qui sont reliées par des liens qui, moi, m'échappent, mais... Bon, clairement, les hippocampes sont aujourd'hui considérés comme un ingrédient de choix pour la médecine chinoise.
Et ils sont utilisés en Chine depuis le 5e siècle.
Voilà, donc c'est à la fois ancien et pas si ancestral que ça non plus. Oui, ils sont utilisés depuis longtemps. La difficulté aujourd'hui, c'est que avec d'une part l'importance de la population chinoise et de la diaspora chinoise dans le monde et le niveau de vie qui augmente dans toutes les communautés chinoises, il y a de plus en plus de demandes et ils sont prêts à payer relativement cher pour pouvoir utiliser des hippocampes. D'où une surexploitation de plus en plus grave à l'échelle mondiale.
Et vous donnez dans le livre ces chiffres saisissants. On estime que 15 à 20 millions d'hippocampes sont commercialisés chaque année dans le monde et que 37 millions seraient capturés.
Voilà, donc alors il y a deux choses importantes là-dedans. Il y en a énormément qui sont commercialisés. D'ailleurs, pour beaucoup de manière pas très légale, il y a quand même beaucoup de circuits parallèles qui ne sont pas très bien contrôlés par les États notamment.
Et on les vend aussi comme bibelots pour la décoration séchée.
Ah ouais, ça c'est quelque chose que je trouve un petit peu étonnant qu'on puisse acheter un cadavre pour sa décoration ou ses souvenirs, mais bon, c'est quand même ça diminue notablement hein. Aujourd'hui on peut considérer que cet usage purement décoratif entre guillemets est devenu très très secondaire par rapport, bon, bien sûr, à l'utilisation pour la médecine chinoise qui est le gros du problème, et aussi l'utilisation, par exemple, pour le commerce aquariophile, où on a plusieurs centaines de milliers d'hippocampes chaque année qui sont quand même commercialisés.
Pour les aquariums.
Pour les aquariums d'amateurs.
Et quelles autres menaces pèsent sur les hippocampes? On pense aussi au chalutage, hein, cette technique de pêche largement
Alors,
pratiquée.
Alors là, ça rejoint effectivement la différence de chiffres entre 20 millions commercialisés et 37 millions capturés. Ça veut dire que y a des hippocampes qui sont capturés sans objectif commercial au départ, parce que souvent, une fois qu'ils sont capturés, ils sont quand même plus ou moins remis dans les circuits. Mais effectivement, il y a des méthodes de pêche non sélectives qui posent des gros problèmes sur les populations d'hippocampes. Mais pas seulement. En réalité, quand on regarde, je ne sais pas moi, une prise de pêche à la crevette par un chalutier, il n'y a souvent que 10% de crevettes par rapport à tout ce qu'il y a là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a 90% de poissons et autres organismes marins qui, pour la plupart, ne sont pas utilisés, pas utilisables, et qui sont donc surexploités sans aucune exploitation réelle. Et quelque part, les hippocampes, ça peut être aussi les porte-paroles de tous ces poissons qui sont moins célèbres, mais qui ont les mêmes problèmes de surpêche liés au chalutage et aux méthodes non sélectives.
Face à toutes ces menaces, comment préserver Les hippocampes, que peut-on faire? Vous, vous appelez notamment à une mobilisation citoyenne que vous mettez en place avec votre association, hein, fondée en 1995, l'association Peau Bleue. Vous voulez impliquer les citoyens bénévoles dans le recensement des hippocampes, notamment?
Oui, alors ça, c'est... Disons qu'il y a plusieurs niveaux auxquels des citoyens peuvent contribuer à la préservation des hippocampes. Le premier niveau, qui est celui sur lequel nous, on travaille depuis 15 ans, c'est celui de la connaissance. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez vu un hippocampe ou vous en avez une photo, vous pouvez nous l'envoyer et ça s'intègre à nos bases de données. Donc, dans le livre dont on parlait tout à l'heure, il y a, je dirais, au moins un quart des données, y compris des données totalement nouvelles pour la science, qui proviennent de ce travail avec des amateurs qui ont partagé leurs observations avec nous.
Un travail de citoyen bénévole. C'est l'idée de la science participative.
Voilà, alors le principe de la science participative, c'est soit ce qu'on a vu là, c'est-à-dire vous avez vu quelque chose, vous le partagez. Et puis, il y a aussi des gens qui s'investissent beaucoup plus. Par exemple, sur la lagune de Thau, on a une équipe de bénévoles, donc c'est en Occitanie, une équipe de bénévoles qui plonge pour étudier les hippocampes avec nous depuis plus de 10 ans et qui ont permis effectivement de faire des découvertes que les scientifiques n'avaient pas faites parce qu'ils n'avaient pas travaillé sur le sujet.
Vous appelez aussi à remettre à l'eau les hippocampes capturés accidentellement, on en parlait par la pêche.
Alors ça, évidemment, c'est quelque chose qui se fait aujourd'hui assez naturellement en France. C'est-à-dire que ce soit sur le bassin de Thau, sur le bassin d'Arcachon, comme on l'entendait tout à l'heure, les pêcheurs aujourd'hui sont conscients que c'est quelque part une richesse naturelle de leur environnement. Ils sont plus fiers de dire « j'ai remis mes hippocampes à l'eau après les avoir attrapés accidentellement » que d'en avoir un séché quelque part.
Il y a l'idée aussi d'un statut de protection pour les hippocampes pour lequel vous militez.
Alors, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on s'est aperçu de plusieurs choses à force de les étudier. Notamment, on a pu constater que chez l'hippocampe moucheté, il y a plusieurs lignées génétiques. Là, c'est des collègues généticiens qui ont fait un très gros boulot là-dessus. On a pu confirmer aussi, pour ce qui concerne les hippocampes de la lagune de Thau, qui constituent une lignée unique et différente des hippocampes de la même espèce de milieu marin en Méditerranée. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on sait que si les hippocampes de Thau disparaissent, c'est pas les hippocampes de la même espèce qui est en Méditerranée qui pourront les remplacer parce que c'est une autre lignée qui a pas les mêmes besoins écologiques. Donc ça veut dire que aujourd'hui se pose vraiment la question de cette population particulière dans les lagunes d'Occitanie, qui mérite sans doute qu'on prenne soin d'elle de façon spécifique. Et il y a une alerte qui nous est arrivée du Portugal, où on a appris que du braconnage s'était mis en place de façon vraiment très importante dans la Ria Formosa, qui est un des hauts lieux de présence des hippocampes en Europe et dans le monde. Et ce braconnage, à destination du marché asiatique, pose des gros problèmes, c'est difficile à résoudre, alors même qu'il y a là-bas une réglementation qui interdit la pêche des hippocampes.
D'où l'idée d'aller plus loin avec un statut de
protection. Aujourd'hui, en France, on n'a pas de réglementation qui gère ces choses-là. Donc, il semble important de le mettre en place.
Et observer les hippocampes, tenter de les comprendre, c'est un premier pas pour les protéger, hein, et puis pour préserver les environnements marins aussi, dans lesquels ils évoluent. Merci beaucoup Patrick Louisi de nous avoir invités à plonger parmi les hippocampes, créatures dont on aurait encore beaucoup à dire. Hippocampes, une famille d'excentriques, c'est le titre de l'ouvrage que vous publiez aux éditions Biotope et aux éditions CPIE Bassin de Thau. Un grand merci également à toute l'équipe de l'émission, Hugo Violas à la réalisation et Tania Tiskounas en coulisses. Vous pouvez retrouver, comme toujours, cette émission sur notre page RFI. Et autour de la question, lundi, vous retrouverez Caroline Achoski pour une rediffusion « Comment prendre en compte la diversité des phénomènes migratoires ?» À bientôt.